Bien, comme vous n'êtes pas tous adhérents à l'association France-Palestine Solidarité, donc je me présente, Jean-Yves Dubré, je suis président de la FPS 49. Jean-Paul est vice-président, on a Chantal Corr qui est vice-présidente qui est là aussi, un certain nombre d'adhérents. Donc comme vous voyez, ce film plein d'émotions qui évoque des liens filiaux, des liens de famille, et qui pour autant renvoie à la grande histoire, on va dire. Donc voilà, je vais vous laisser d'abord poser vos questions. Je pense que on va voir ce que cela vous a inspiré. Surtout puisque vous avez applaudi, je pense que vous avez été sensible à beaucoup de choses.
La première question se fait toujours un peu attendre.
Bonsoir. Moi, je réagis uniquement parce que dans notre vie, moi, je suis Libanais. Là où on est, du sud du Liban, on voit Tiberiade, notre maison. Et ce témoignage dans ce film, il est tellement touchant. Il exprime d'une manière très profonde cette déchirure familiale suite à la tragédie du peuple palestinien qui a été chassé de sa terre. Au Liban et au sud du Liban, on est très proche par rapport à ce qui s'est passé en Palestine, aussi au sud du Liban. Nous, nos familles personnelles, on a aussi vécu beaucoup des drames de ce type. Donc, je peux dire que cette tragédie du peuple palestinien, y compris aussi le sud du Liban, particulièrement, continue. Et puis, j'espère qu'un jour, on arrivera à une solution radicale pour résoudre ce problème humain et que le peuple palestinien arrivera aussi à se libérer de libérer son pays de l'occupation israélienne. Merci.
Oui, ça montre effectivement les déchirures, comme vous disiez si bien, et l'éclatement des familles, et qui correspond, en écho, on le voit aussi, à l'éclatement de tout ce peuple, puisque beaucoup sont à l'extérieur maintenant, et la question des frontières qu'on ne peut pas franchir, et même à l'intérieur, c'est-à-dire entre ceux de Cisjordanie, ceux qui sont en Israël, toutes les difficultés de déplacement, c'est tout ça que l'on sent dans cette famille qui essaie de retisser des choses, et à partir de la plus jeune, mais qui a dû poser ces questions à sa mère qui ne voulait pas, parce que, comme elle disait, il ne faut pas rouvrir les douleurs du passé. Mais ce film est quand même formidable, parce qu'elle a remonté le fil, et elle a retissé.
Oui, une petite précision, parce que là, on voit Iyam Abbas, donc qui est de, maintenant, elle est de nationalité française. Hein, et donc, ça lui permet à elle de revenir en Israël, parce qu'elle y est née là-bas. Elle est française et Tiberiade fait partie des terres d'Israël de 48. Hein, de 48. Si elle aurait eu beau être française, si elle était née à Ramallah, Naplouse ou ailleurs, dans les territoires occupés en 67, elle n'aurait pas eu le droit d'y retourner. C'est uniquement parce qu'elle est née sur le territoire de 48 qu'elle a eu cette possibilité. C'est bon à savoir. Et vous voyez que quand elle présente, on est donc à l'intérieur de ce qu'on appelle les territoires de 48, à l'intérieur d'Israël, et à l'intérieur, elle dit, ben regardez, là, les petits villages là-haut, nous, on était en hauteur, mais eux, ils se sont mis encore plus haut. C'est-à-dire, ce sont des implantations nouvelles qui, comme en Cisjordanie, dans les colonies actuelles, qui s'étendent, ont choisi les points stratégiques en hauteur. Voilà, petite précision.
je voudrais juste attirer l'attention sur le film, est vraiment extraordinaire. Les dialogues sont superbes et succulents. Ce que je voudrais, la chose à laquelle je voudrais attirer l'attention, c'est cette mise en abîme. La mère joue son propre rôle au théâtre même. Et ça, j'ai trouvé cette idée absolument étonnante et très, très belle.
Alors, il y a une chose aussi sur laquelle je tire votre attention, c'est que vous voyez que dans ce film, on a des films en Super 8 qui ont été tournés dans la famille, mais on a aussi des images d'archives. Et ces images d'archives, Lina Soualem a mis 6 ans à les retrouver. C'est très compliqué, parce qu'il n'y a pas d'archivage national palestinien. Tout est dispersé, ou a disparu. Nous, en France, on est bien contents. On a l'INA, on peut retrouver des tas de films de toutes les époques. Et les Palestiniens, pour eux, ce n'est pas le cas. Donc c'est très compliqué.
Et les photos de l'exil, les photos de 48 sont rares, très rares. On en voit quelques-uns, mais c'est toujours les mêmes, presque.
Bonsoir tout le monde. C'est juste une petite question. Est-ce que le lac Tibériade, est-ce que la Syrie, le Liban, la Jordanie et bon, un peu la Palestine ont droit, ils y ont accès, ou il a été annexé par Israël ?
Le lac Tibériade, il est entièrement, y compris sur la rive est, dès avant 67. Juste la rive, ils étaient juste en bas, étaient occupés par les Israéliens. Mais les Syriens étaient juste au-dessus. Et en 67, quand il y a eu l'attaque et qu'ils ont conquis le Golan, évidemment, ça a été définitif. Mais c'était déjà le cas avant 67.
C'est la question du contrôle de l'eau qu'il y a aussi derrière, qui est évidemment une chose fondamentale. Et si le Golan a été conquis en 67, c'est surtout pas pour le rendre plus tard, puisque c'est le château d'eau qui permet d'alimenter en eau toute la région. Et donc Israël contrôle totalement à 100% toute l'eau de la région. C'est pour ça que les Palestiniens, d'ailleurs, ont tant de problèmes. Est-ce que sur cette histoire de famille, oui, vous avez la façon de le traiter dans ce film, vous avez des choses à évoquer? Beaucoup les femmes aussi.
Quand ils viennent tous après la mort de leur mère, ils se retrouvent, je comprends bien, ils se retrouvent tous suite à la mort de leur mère. Ils viennent d'où exactement? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont quand même très.
Ils viennent de plusieurs pays, plusieurs endroits, oui. Et ils se retrouvent dans ce village de Deir Hana, là, qui est en Galilée, donc dans le, je ne sais pas où précisément, mais dans le nord d'Israël actuel, qui est une région peuplée majoritairement de Palestiniens. C'est la seule région qui reste peuplée majoritairement de Palestiniens dans l'Israël d'aujourd'hui.
Quand on les regarde, on a l'impression qu'ils viennent. Enfin, il y en a qui sont un peu restés dans le coin et d'autres qui sont quand même partis très très loin.
Et là, en fait, c'est visiblement une réunion. La maison, on s'est dit dans le film, la maison est vendue, en fait, déjà. Et je pense que c'est la dernière fois qu'ils peuvent tous se réunir dans cet endroit où ils peuvent retrouver, regarder les photos et vivre ensemble des choses. Mais oui, certains. Bon, il y a Yam qui est parti effectivement à l'étranger, mais je pense la seule qui est partie comme ça en France, contrairement à ses sœurs qui se sont mariées, qui se sont établies dans la région. Par contre, effectivement, il y a une partie de la famille. La grand-tante, par exemple, elle était partie en Syrie, et dans le camp de Yarmouk. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ont vu le documentaire sur Yarmouk qu'on a passé il y a 2 ans ici.
Little Palestine.
Voilà.
Le camp de Yarmouk qui a été écrasé, dont la révolte a été écrasée par les troupes de Bachar.
Ce qui est assez troublant dans la scène qu'on vient d'évoquer là, sur la dernière réunion de famille, moi, je me demandais en tant que spectateur, quand je l'ai vu, c'est une reconstitution, c'est joué, c'est une mise en scène, ou est-ce que c'est effectivement, c'était tourné au moment où ça s'est passé? Et j'interroge pas du tout, si je pose cette question, c'est que j'interroge pas du tout, je dirais, l'authenticité. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est très bien montré dans ce film, c'est quand on n'a pas d'histoire, quand l'histoire est tellement trafiquée que finalement il y a une espèce de perturbation psychologique où les gens ne savent plus si on est dans une espèce de fiction qu'on raconte ou si c'est quelque chose qu'on a vraiment vécu. Et je trouve ça intéressant que le spectateur soit dans cette position-là, en fait. Voilà. Par rapport à des images, je me demandais est-ce que c'est... Parce qu'on voit à la fin du générique, hein, on voit bien qu'il y a, il y a plein de gens qui ont contribué et qu'on crée des scènes, quoi. Voilà.
Oui, il y a une écriture qui a été faite.
Oui, tout à fait. Écriture, tout à fait. Oui. Oui, c'est pas juste de la compilation, je dirais, d'archives. Voilà, ça plonge le spectateur, je dirais, dans une espèce de trouble qui est celui aussi, je dirais, des gens qui vivent ces situations-là, en fait.
Mais il y avait, Lina Souellem l'a précisé déjà dans des différentes interviews qu'on a pu entendre. On aurait bien voulu qu'elle soit là ce soir, mais elle est aux États-Unis, donc on n'a pas pu la faire venir. Mais il y avait une équipe d'écriture, effectivement. Et son souci, de toute façon, et en faisant ce film, c'était l'urgence à pouvoir reconstituer quelque chose qui est en passe de disparaître et qui pourrait avoir disparu si on n'y fait pas attention et qu'on ne retrouvera jamais. Donc en rassemblant toutes ces personnes de cette famille, je pense qu'il y a des souvenirs qui ont émergé, qui chacun se renvoie, et après il y a des choses de toute façon quand même spontanées, mais il y avait une trame qui avait été établie pour essayer justement de reconstituer un petit peu ce qui a pu être la vie de famille ensemble. Parce que c'est précieux, c'est ce qui fait soi, ce qui fait ses racines. C'est pour ça que la dernière, Lina, est en quête de retrouver ça. Alors que, visiblement, longtemps, elle n'en a pas entendu parler. Elle y allait, elle savait que ça existait, elle l'a vécu en elle, mais elle a voulu retrouver tout ce que ça signifiait, à quoi ça correspondait. Donc, effectivement, il y a des choses construites, mais c'est pour retrouver ces souvenirs qui font l'existence de toute cette histoire. Est-ce que vous avez aussi remarqué, je trouve ça assez frappant au début du film, les barbelés qui sont le long des routes? Voilà, la question des paysages et des frontières et des interdictions et de tout ce qui est contrôlé. C'est toujours permanent, en fait. Et sur le balcon, qu'est-ce qu'on voit? On voit une station militaire qui est en haut des collines. Sachant qu'effectivement, ça, c'est pas du tout un hasard, puisque en fait, la consigne a été donnée par les gouvernements israéliens de construire sur toutes les hauteurs, absolument, pour contrôler toute la géographie et tout le paysage, sachant que beaucoup des villages palestiniens sont effectivement vers le bas.
Dans ce sens, moi, il y a une image qui m'a particulièrement choquée. C'est qu'à un moment, elle est au bord du lac. Et il y a une troupe de soldats qui arrive. C'est assez arrogant. Enfin, c'est étrange. Il y a une ambiance très étrange, dont un avec une kippa. Et en fait, personne ne la regarde. Enfin, j'ai senti quelque chose de... Pour moi, c'est un résumé de ce qui peut... de cette ambiance qu'on peut ressentir.
Personne ne la regarde. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait, des hommes qui la regardaient. Et ce n'était pas forcément très amical. Voilà.
Ouais. Je ne sais pas s'ils étaient tous armés. J'en ai vu plusieurs qui étaient armés, mais peut-être... Et voilà, ils sont chez eux. Oui, oui, bah, évidemment, c'est les jeunes. Voilà. Oui, oui, il y avait une ou deux femmes.
demander si vous pouviez nous reparler du rôle des Anglais en 1948. On voit au début du film les chars, enfin des chars, des blindés là, qui déboulent. Et à quoi ça correspond exactement ? Merci.
Oui, alors donc les Anglais, c'est... Bon, il faut remettre les choses en place, effectivement. Les Anglais, ils sont là au titre du mandat qui leur a été confié par la Société des Nations en 1922, même des, ils sont des 1920. Et ce mandat, qu'est-ce que c'est qu'un mandat ? C'est permettre à une population qui est encore un peu faible d'esprit de pouvoir se développer, grandir et être à même de s'auto-administrer. Les Français, eux, avaient un mandat sur la Syrie, par exemple, et le Liban. Voilà. Donc, eux, les Anglais, ils ont la Palestine, la Jordanie,
voilà. L'Irak.
L'Irak aussi. Bon. Ce mandat, alors, bon, il y a toute une histoire, effectivement, avec le développement du sionisme parmi les Juifs d'Europe, lesquels Juifs d'Europe mettent un peu de temps à se laisser convaincre que c'est bien d'aller en Palestine. Ils préfèrent les Juifs du ce qu'on appelait le Yiddishland, ils viennent se réfugier en France, la patrie des droits de l'homme, où ils se pensent en sécurité. Hein. En sécurité, ils vont pas y être très longtemps, puisque vous savez ce qui se passe, la France va être occupée. Pétain prend dès le mois d'octobre 40 une législation anti-juive. Bon. Les Anglais, donc, eux, pendant ce temps-là, eh ben, ils assurent quoi ? Ils assurent la promesse Balfour. Balfour, c'était, en somme, un ministre des Affaires étrangères britannique, pour parler court, qui, lui, avait dans une lettre à un des responsables juifs d'Angleterre, Lord Rothschild, lui avait écrit que le gouvernement de Sa Majesté envisageait d'un œil favorable l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Sans que pour autant les droits sociaux ou religieux des habitants soient mis à mal. Droits sociaux et religieux, il ne parle pas de droits politiques. Donc implicitement, dès le début du mandat britannique, les droits politiques vont être pour les nouveaux arrivants sionistes. OK ? Voilà. Et voilà. Bon, alors je passe, il va y avoir... ça ne va pas se passer si bien que ça. D'abord, les Juifs vont avoir, comme je vous l'ai dit, ils ne vont pas venir si vite. Et évidemment, quand Hitler prend le pouvoir, les choses changent. Et à ce moment-là, dans les années 30, on a une arrivée plus importante. Mais en même temps, eh ben, les gens sur place, les Palestiniens sur place, ils se rendent compte que ils sont en train d'être dépossédés de leur terre, etc. Et donc là, il va y avoir ce qu'on appelait la révolte arabe dans le début des années 30. Et les Anglais vont être bien embêtés. Et finalement, ils vont presque un peu retourner, tenter in extremis de donner des satisfactions, alors qu'ils avaient promis un État arabe, etc., etc., donner des satisfactions aux Arabes, mais les satisfactions sont en fait en trompe-l'œil et ça ne va pas être possible. Et ils vont se trouver face à une petite armée, une armée très, très bien entraînée, etc., formée à l'intérieur du Yishuv, c'est-à-dire la communauté, le proto-État israélien qui s'installe tout au long de cette période après la guerre, commettre des attentats importants pour bien faire comprendre aux Anglais que leur place n'est plus là. Et il y a, par exemple, l'hôtel King David qui va être détruit, dans lequel il y a je ne sais plus combien de morts, peut-être 90 ou 100. Bon, voilà. Et l'envoyé spécial de l'ONU, le comte Bernadotte, va être lui aussi assassiné par une équipe proche du futur dirigeant israélien Menachem Begin. Voilà. De la Regana. Lui, exactement. Voilà. Bon.
Oui.
Cécile Parent. Je fais partie du groupe Deux peuples, deux États, Israël-Palestine. Je voulais simplement dire que les Anglais avaient, en 1939, établi un livre blanc, juste en 1939, qui empêchait absolument l'immigration juive, ou du moins la réduisait énormément. Et après, quand la guerre serait finie, et les Juifs de Palestine se sont battus du côté des Anglais, eh bien, à ce moment-là, on demanderait aux Arabes, s'ils veulent bien, que se soit créé un État juif. Donc, évidemment, les Juifs étaient furieux parce que le bouclage de la Palestine arrivait au très mauvais moment. Et dès que la guerre a été finie, ils ont porté les armes, en effet, avec des actes de terrorisme contre l'occupant anglais. Ceci jusqu'en 1947, où les Anglais ont renoncé à leur mandat et où l'ONU, en 1947, a fait un plan de partage de la Palestine en donnant aux 600 000 juifs à peu près 55% du territoire, aux Arabes qui étaient le double, 1 200 000, 45%. Il faut dire que le territoire donné aux juifs, c'était aux deux tiers le désert du Negev. Donc ça relativise un petit peu. En tout cas, les Juifs ont accepté. Ils auraient sûrement à l'origine voulu plus, mais ils ont accepté. Et les pays arabes et les Palestiniens ont trouvé que c'était tout à fait injuste. Ils ont refusé et 5 armées arabes ont envahi le territoire israélien. Voilà. C'est une des raisons qui a provoqué aussi un exode massif de 750 000 Palestiniens qui ont été réfugiés de père en fils et de fils en petit-fils.
Oui. Petite précision quand même, vous n'avez pas tort, mais il faut quand même préciser que les Anglais, effectivement, j'étais sur l'État, vous étiez né sur l'État. Comment se fait-il que les Palestiniens refusent cette proposition de partage, c'est alors il faut établi par la nouvelle organisation des Nations Unies naissante. C'était, ben, vous l'avez dit, mais il faut insister dessus. Comment était-il possible à des Palestiniens qui vivaient là depuis toujours d'accepter d'être sur un territoire qui allait être confié, où ils étaient plus nombreux que les Juifs qui allaient venir, d'accepter de passer sous leur domination. C'était impensable, inacceptable. Alors évidemment, aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé depuis. Bon, voilà. Mais je crois que c'est très, très simple à entrer dans cette conscience de la dépossession d'alors, et qui va entraîner. Alors, quant aux armées arabes qui envahissent, comme vous dites, oui, effectivement, elles envahissent. Alors, les armées arabes, pour voir ce que c'est, elles sont complètement... chacune est se bat pour elles, et pour elles-mêmes, elles ne sont pas coordonnées, alors que, techniquement, je dirais, l'armée, la Haganah, est beaucoup plus... beaucoup mieux équipés, y compris par l'Union soviétique, qui pense que là, il y a de futurs révolutionnaires, bon, etc., etc. Et en plus, un certain nombre d'entre eux vont s'interdire de pénétrer, ils vont attaquer, mais uniquement dans les zones qui étaient attribuées à l'État arabe, notamment dans le Negev. Voilà. Mais ça n'a pas marché, comme on le sait, et puis ils vont donc être défaits et se replier, par exemple, à Gaza, dont on parle un peu ces jours-ci.
Oui. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart du gouvernement israélien actuel, ils sont tous d'origine marocaine. Ils ont grandi au Maroc, ils ont... voulu au Maroc, puis bon, bah, et actuellement, c'est en discussion, si tous les sionistes qui sont partis se battent là-bas, en Israël, en Palestine, de les déchoir de la nationalité marocaine. Alors, et je me pose la question, si ceux qui sont partis aussi de France, Est-ce qu'il y a un projet de les déchoir de la nationalité française? Et est-ce qu'ils vont subir le même sort que ceux qui ont été en Syrie et puis qui sont revenus et qui sont emprisonnés? Voilà la question que les questions que je me pose.
Pour l'instant, on n'a pas d'éléments factuels sur cette question. Par contre, c'est une question, effectivement, ces franco-israéliens qui se retrouvent à combattre dans l'armée israélienne, dans la bande de Gaza aujourd'hui, ils relèvent pour autant de la justice française, puisqu'ils sont aussi français. Et la question, effectivement, de les poursuivre pour complicité ou pour crime de guerre directement, se pose. Et il y a des juristes qui sont sur cette affaire.
On a vu des scènes filmées. Maintenant, avec les téléphones portables, on aime beaucoup faire des selfies. Et il y en a, y compris apparemment, des Français qui se sont mis à faire des selfies avec, par exemple, des vêtements de gens, des maisons qu'ils avaient, dans lesquelles ils avaient pénétré. Bon, mais attention quand même, il ne faut pas tout... à propos du Maroc... Le Maroc, il est bien gentil, mais le souverain marocain, lui, il considère que ceux qui sont partis s'établir en Israël, ce sont toujours ses sujets. C'est un roi, lui. Et à l'époque d'Hassan II, Hassan II avait des contacts, évidemment, avec les dirigeants israéliens et faisait bien entendre que moi, ils sont chez vous, mais... ce sont toujours mes sujets. Hein, ce sont toujours mes sujets. Voilà. Bon.
Est-ce que autour du film, pour revenir un petit peu, refaire un petit peu un focus. Oui.
Du coup, si je comprends bien, le film vient d'être diffusé. Il a sûrement fait des concours ou des.
Il a eu un prix à Sundance, entre autres. Oui.
Est-ce que vous avez des infos sur le contexte dans lequel un film palestinien aujourd'hui? Actuel, comment ça se passe?
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'étais en contact avec celle qui est responsable de la distribution en France et qui, quand je lui ai signalé qu'on allait faire la projection ici, alors le 400 coups faisait de toute façon une sortie nationale, mais que je demandais si on pouvait avoir soit l'auteur du film ou des gens de l'équipe, elle m'a demandé comment ça se passait ici, à Angers et autour. C'est-à-dire qu'il y a des endroits en France où c'est très difficile. Dans la région de Lyon, par exemple, ça a été compliqué. Ils ont été, Lina Soualem et sa mère ont été l'objet d'attaques sur les réseaux. Et donc, en fait, ils ont été obligés d'envisager des mesures de protection lors des déplacements, parce qu'effectivement, ça crée. Il y avait le CRIF, il y avait des associations effectivement juives qui protestaient contre la diffusion de ce film. Donc, on est dans ce contexte. Donc là, je dis qu'à Angers, a priori, on ne devrait pas avoir de problème.
On n'est pas dans ce contexte.
Mais ça existe, effectivement.
Voilà. Bon, je ne sais pas. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient prendre la parole? Et allez, une dernière fois. Puis on va pas se coucher trop tard.
Moi, franchement, j'ai été très, très touché par ce film-là, sur le plan humain. Sur le plan humain, sur le plan des paysages, surtout, c'est incroyable. Mais derrière ça, je crois que ce film-là est une preuve de l'histoire. Laquelle j'entends quelqu'un qui, avant moi, avait dit qu'au 47-48, on parlait des Palestiniens. C'est faux. À l'époque, on parlait des Arabes. Pourquoi? Parce que, à l'origine, de la création de l'État d'Israël, il y avait le slogan « Une terre sans peuple, la terre Palestine n'a pas de peuple, pour un peuple, le peuple juif, mais qui n'a pas de terre. Une terre sans peuple, pour un peuple sans terre. » Et jusqu'aux années, début des années 70, le monde entier, enfin, pas les dirigeants, les peuples, commençaient à entendre de parler des Palestiniens. Avant, c'était quoi? C'était Israël contre, ce qu'on a entendu parler dire, les armées, le monde arabe. Et on ne disait pas le conflit israélo-palestinien. C'était le conflit israélo-arabe. Ce qui change tout. À l'époque, c'était ça. Et depuis, eh bien, on commençait à parler des Palestiniens, parce que le peuple palestinien eux-mêmes est dans la... Ils le reconnaissent, les Palestiniens, comme quoi ils croyaient à l'appui des gouvernements arabes. Il s'est avéré que c'était... Et c'est pour ça ce qui se passe maintenant. Malgré tous les massacres, on est arrivé à 30 000 tués. Eh bien, ils disent, on ne quitte pas. Parce qu'ils ont appris une chose, que s'ils quittent, ils ne reviennent jamais.
Mais les Gazaouis, dans la bande de Gaza, sont des Palestiniens qui habitaient juste à côté avant et qui, en 1948, sont venus se réfugier là. Et donc, en fait, ils revivent à nouveau quelque chose où on leur demande de partir. Et c'est pour ça que, transmission entre générations, ils disent, mais de toute façon, là, maintenant, on ne partira pas, cette fois-ci.
Et comment se fait-il qu'on est passé des Arabes aux Palestiniens? C'est très simple. Elias Sambar l'explique bien. La Palestine a disparu en 1948. Elle a disparu dans les sables. Et elle a réapparu en se reprenant en main dans les années, à la fin des années 60, lorsque Yasser Arafat a récupéré l'OLP. Et lorsque, après la guerre des six jours, où les armées arabes ont été totalement écrasées et tout ça, les Palestiniens ont commencé à prendre. Ils étaient réfugiés à l'extérieur, en Jordanie, etc. Et il y a eu en 68, tu t'en souviens peut-être, ce qu'on appelle la bataille de Karameh, qui a vu une première petite, toute petite victoire arabe, en ce sens qu'il y avait eu une avancée israélienne en Jordanie, et les Palestiniens les ont repoussés. C'était une petite bataille. Mais il a eu un écho énorme, et évidemment, un peu trop énorme pour le roi de Jordanie, qui a senti son pouvoir menacé, et il y a eu les massacres à ce moment-là, les terribles massacres de Septembre Noir en septembre 70. Voilà. Bon. Vas-y. Non, mais il faut le micro parce que... attends, je t'explique. La conférence est enregistrée. Donc, voilà.
Non, dans le sens où j'ai dit tout à l'heure, dans le film, on entend bien que le mot Palestine est interdit. Elle l'a dit à un moment. Le mot Palestine était interdit.
Mais les Palestiniens qui vivent en Israël ne veulent pas qu'on les appelle des Arabes. C'est pourtant comme ça qu'ils sont qualifiés en général par les Juifs israéliens. Oui, ils sont Palestiniens.
Oui. Il y avait le mot Palestine interdit. Il y avait aussi les drapeaux palestiniens qui étaient interdits. Oui. D'ailleurs, on a passé il y a quelques mois un film là-dessus, Halam, le drapeau, oui. Qui est autour de ce drapeau qu'on n'a pas le droit, qu'on chérit dans son cœur, mais qu'on n'a pas le droit de montrer quand on est Palestiniens de 48, Palestiniens d'Israël. Voilà.
Et je voulais vous préciser aussi que Lina Solem fait référence à un cinéaste chilien qui s'appelle Patricio Guzman, et qui dit « Nous ne devons pas oublier qu'un pays, une région, une ville qui n'a pas de cinéma documentaire, c'est comme une famille sans album photo. » Donc vous voyez, c'était un film comme ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et il faut effectivement retrouver une communauté d'images. Voilà. C'est la mémoire individuelle et la mémoire collective qui doivent se retrouver. Et par ailleurs, en tant que descendante d'immigrés, puisque son père était originaire d'Algérie également, elle entreprend la tâche urgente mais intimidante d'aborder les questions du traumatisme colonial, de l'exil, de la transmission à travers une écriture créative et la construction de territoires imaginaires. À travers ces films, les films de Lina Solem et celui qu'elle a fait avant, je veux donner une visibilité à des souvenirs intimes qui font écho aux mémoires collectives d'une communauté, d'un peuple, d'être invisibilisés, déracinés, marginalisés, privés de leur identité, perdus et ou constamment obligés de se réinventer en exil permanent. Voilà. Et vraiment, ce film illustre effectivement cette volonté de lutter contre cette disparition.
Merci. Juste pour revenir justement sur le film, si Lina Solem avait été là, je l'aurais vraiment chaleureusement remerciée d'avoir fait ce genre de film. Je trouve que c'est par ce genre de film où il y a une approche humaine et par la famille ça pose toutes les questions de transmission entre femmes aussi, ce qui est très fort. Et je trouve que ce genre de film peut contribuer beaucoup plus que d'autres documentaires sur la guerre et tout ça. Ce film-là peut aider à comprendre la tragédie des familles palestiniennes, parce qu'on est touché, parce que cette famille, ça pourrait être nos voisins, nos amis, et du coup, on est beaucoup plus touché par ce qu'ils ont vécu. Et j'ai été vraiment bouleversée par une des phrases de Lina Swalem qui dit « Comment on fait pour être l'arrière-petite-fille d'une lignée de femmes qui a dû tout quitter ?» À chaque fois, les femmes ont dû tout quitter. Et je me posais la question, comment on fait pour être des enfants ou des petits-enfants d'un peuple qui a connu que des massacres, des exils, etc. Et ça continue à se poser encore aujourd'hui avec ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Et se pose la question de la transmission et comment on fait pour gérer cette violence, etc. Et je trouve ce film vraiment magnifique. Et j'espère qu'il contribuera à aider à prendre conscience de tout ça, en fait. Voilà. Si elle était là, je voulais lui dire merci.
Je crois que c'est une très belle façon d'aborder ce sujet de l'éclatement du peuple palestinien, plutôt que de passer effectivement par des images terribles de guerre, même si on a de toute façon l'occasion d'en voir tant qu'on voudra. Mais je pense que là, par l'intérieur, par l'intime, on comprend ce que ça fait vivre aux gens et sur des générations. Et donc, inversement, on peut se poser la question, et tous ces enfants qui, aujourd'hui, dans la bande de Gaza, sont seuls, toute leur famille a disparu. Il y a pratiquement 20 000 enfants isolés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont à Gaza ? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir recevoir comme transmission ? Voilà, ça, c'est une vaste question et c'est très inquiétant.
Bien. Eh bien, on vous remercie et puis on a été...
Le 23 mars, donc les 8 heures pour la Palestine, comme tous les ans. Et nous aurons donc un film d'abord, Les bébés de l'Intifada, qui est un film documentaire de Arte. Et ensuite, on aura une conférence avec Alain Grech, que vous connaissez certainement, qui était l'ex-rédacteur en chef du Monde diplomatique, qui maintenant dirige L'Orient 21, un magazine en ligne, et qui est un spécialiste du Proche-Orient. Voilà. Et ensuite, le soir, on aura Koual, vous connaissez, et qui va nous parler de la Palestine, parce qu'il y est allé plusieurs fois, et il a des souvenirs très précis.
À travers son slam. Voilà. Voilà. Eh bien, vous avez eu de la chance d'avoir pensé à réserver vos places, parce que beaucoup d'entre nous n'y ont pas pensé et sont restés dehors. C'est vrai.
À bientôt.